c'est beau, mais que c'est beau, tu te rends compte?
C'est pas une œuvre d'art.
Si, un site est une œuvre d'art.
L'air est pur, tout est calme, je me détends.
Parce que tu trouves ça calme, toi. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Moi, je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Vous les voir, mes 400 états. C'est nickel.
CO2, mon amour.
Il n'y a plus une herbe, plus un animal. Yeah. Avec le Xerox 3000. Ah, ça, ça te nettoie tout.
Vous avez déjà fait vos courses dans un supermarché bio? On s'attend à des gens éclatants, le teint vif, et ils ressemblent aux tomates qu'ils achètent.
Avec Denis Chessou.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être.
Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
Eh ben nous, on va essayer au contraire de la faire revenir cette nature. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir sur France Inter, dans CO2 mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, en tout cas qui essaie. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian nous accompagne. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès. Et aujourd'hui, eh bien c'est à la fois Xavier Pestugia et Fred Milano qui la réalisent. Et donc une petite humeur, car les animaux attendent un peu avant d'y croire, car ça circule encore pas mal sur les routes. Les marmottes, elles, sont rentrées dans leurs boîtes, les loirs, les lérots, les hérissons aussi. Les moufettes en noir et blanc attaquent également leurs roupillons. Alors, comme on parle très très peu des moufettes, je me suis permis donc de les citer. Bref, une zone 30 de la vie, le cœur au ralenti. Et les humains, allaient-ils comme eux hiberner une deuxième fois avant Noël et l'hiver ? Alors, chez les femmes et les hommes, l'hibernation, on appelle ça le confinement. Les animaux, avant de reprendre leurs aises dans ce que les prédateurs en attaché caisse veulent bien leur laisser, y croiront si la chasse est stoppée. Car ce week-end, quand même, à certains endroits, à 1 kilomètre de chez soi, bon voyons, et seulement à 1 heure pour se détendre la gâchette, bon voyons, on tuera, on ne tue pas, on fait de la gestion différenciée. Et puis, on va vous dire que, évidemment, les dérogations préfectorales seront en action, car il faut sauver les cultures face aux sangliers et aux cerfs qui font des dégâts, certes, mais ce sont les mêmes chasseurs qui les agrènent et qui entretiennent donc l'espèce, et c'est tout à fait normal. Quant à notre histoire, notre terrible actualité, eh bien, malheureusement, elle se fait au milieu de flaques de sang aussi obscurantistes que méthodiques pour faire plier notre état de droit et de liberté d'expression, et tout ceci va résister. Au milieu de notre douleur collective, de notre compassion, le mois de novembre a rarement de la chance. Et ouais, parce qu'il trimballe dans sa charrette la fête des morts, le 11 novembre, les feuilles mortes, une lumière qui oublie de nous éclairer et baisse à chaque heure un peu plus l'abat-jour, des attentats, un confinement. Alors faire la soudure entre octobre et décembre, ce n'est pas un métier, mois de novembre, c'est un sacerdoce. Et ne demandez pas son abolition parce qu'on en a besoin. Ah oui, ne serait-ce que le 25, à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. Et ça, c'est du positif pour capter le CO2. Alors des bonnes nouvelles, transformez les épreuves en opportunités. Le public ne vient pas dans vos magasins car on vous a fermé le clapet. Numérisez vos librairies, numérisez l'humain, la vie, le rêve de start-up, numérisez tout ce qui passe, refilez les données à Google, numérisez pour être relié à quoi, à qui, mais à tout, donc à plus personne dans une solitude de clics. Un jour où les robots porteront un gilet jaune, on réalisera qu'il faudra humaniser le numérique. Alors vous me direz, Amazon serait rien si les gens ne commandaient pas, hein. Coluche le disait déjà il y a plus de 30 ans. Les marchands d'antidépresseurs et d'anxiolytiques se frottent eux aussi les mains et commandent du champagne qui n'est pas heureusement encore délocalisé. Alors je sais bien en écoutant ma radio préférée qu'il nous reste le confit de canard. Bon, encore faudrait-il demander son avis au canard. Ah oui, ça c'est peut-être la faiblesse de la publicité, mais c'est une autre histoire. Alors non pas vers quel confit, mais vers quels confins irons-nous à les savoir. Confinons le confit, un homme aimait, choyait, caressait, secouait les mots, c'était bien sûr Alain Rey, originaire d'Auvergne, mais qui avait une maison dans le Morvan. Vous savez, cette petite montagne granitique, très belle et rude, la plus proche de Paris à 220 km. Alors c'était dans mes émissions où les gens, vous savez, se racontaient à partir de cartes routières. Alors des cartes routières, c'est des machins en papier complètement ringards, qui fonctionnent sans batterie, qui ne sont pas numérisés et qui pourtant vous relient les uns aux autres. Le Morvan, Alain Rey.
L'intérêt du Morvan, je trouve, que c'est que situé tout près de Paris, finalement, c'est grosso modo un morceau de massif central détaché et qui est sorti du sédiment. Alors, il plonge dans le sédiment vers le nord, et au sud, il est soulevé, et le point le plus haut, c'est le massif du Haut-Folin, qui dépasse tout de même 1000 mètres, et où il arrive qu'il y ait de la neige en hiver. Et...
Il y a une petite station de ski, il ne marche pas très bien.
Oui, mais enfin, c'est un peu limite pour le ski, mais je peux vous dire que ce n'est pas du tout limite quand il s'agit d'utiliser sa voiture en hiver, parce qu'il y a des montées de route qui sont totalement impossibles, neige, glace, etc. Et ce coin-là, en hiver, quand on arrive à passer... Et d'une beauté incroyable, parce que 1000 mètres, c'est juste l'altitude où les brouillards givrants et autres nuages s'arrêtent. Mmh. Et que quand on est autour de 1000 mètres, c'est souvent plus beau que quand on monte beaucoup plus haut. Enfin, c'est autre chose, quoi. Et parce qu'on sort de la mélasse pour arriver en plein soleil, souvent, ce qui est assez étonnant et inattendu dans un pays, finalement, qui est pas tellement loin du bassin parisien, mais qui n'a strictement rien à voir à aucun point de vue. Un des agréments du Morvan quand on s'y balade et quand on se promène soit en voiture, soit à pied, ce qui est beaucoup mieux, ou en vélo, c'est que c'est un pays de forêts. Et qu'il y a encore en France des forêts domaniales de surface assez importante, sans parler des bois communaux. Et malgré l'exploitation, qui est parfois brutale parce que les bulldozers font du ravage dans la forêt, c'est d'une très grande beauté. Enfin, ce sont malheureusement les essences les plus belles, les hêtres, etc.
Les feuillus
ont tendance à disparaître au bénéfice de
du résineux qui pousse plus vite.
Mais le résineux a un avantage, c'est qu'il vous garde de la verdure pendant toute l'année. Ça, c'est pas mal quand même.
À l'arrêt, il y a d'autres chemins, d'autres routes que vous aimez emprunter. C'est celle qui mène en fait vers les abbayes, vers les églises romanes. Et la Bourgogne n'en manque pas. Il y en a bien sûr dans votre lieu d'origine et de naissance, à savoir l'Auvergne. Il y en a dans le Roussillon, en Saintonge. Mais il y en a aussi beaucoup en Bourgogne.
Il y en a énormément en Bourgogne, qui est un des lieux privilégiés de l'art roman. Et bon, mon amour de l'art roman ne vient pas seulement de ça, mais quand même aussi d'une raison historique, qui est que c'est vraiment le moment où la nation française commence à avoir sa culture propre, alors bien entendu, l'art roman est un phénomène d'Europe, qui dépasse largement la France, mais il y a des formes spécifiques, un peu comme des grands dialectes, qui sont parlé par les architectes vers l'an 1000, c'est-à-dire à l'époque précise où on commence à parler français, où on se dégage du latin.
Eh ben, c'était toujours un enchantement, on s'en doute bien, donc avec un arrêt qui nous tirait donc vers le haut. Et dans quelques instants, notre sujet principal, donc ce sera le géomimétisme. Quesaco, eh ben, on va vous raconter tout cela avec Pierre Gilbert.
Un vainqueur de Troie qui ne m'aime pas veut que foire la chanson. Un tu de moi qui ne m'aime pas veut que je perde la raison. We'll be right back.
Eh bien, c'est sympa, le questionnement sur la vie de couple selon Jean-Louis Murat, donc chanson moyennement dépressive, c'est tout à fait normal. C'était donc comme le cheval, hein, donc Murat. Et là, nous partons dans le Calvados, rejoindre Pierre Gilbert, on va parler de géomimétisme. Alors, nous avons quelques mouettes pour nous accueillir, normal, puisque nous sommes au bord de la mer, les embruns, j'espère que vous pouvez respirer. Et puis, nous avons Pierre Gilbert. Bonjour Pierre.
Bonjour Denis.
Alors Pierre... Jeune garçon de 26 ans qui m'emmène alors là sur sa plage, j'allais dire d'enfance, parce qu'on est donc à Colville, mais attention, pas que Colville simple, hein, c'est Colville.
C'est Colville Montgomery, pas voilà. Confondre avec Colville Plage où il y a le cimetière américain notamment, c'est un peu plus loin.
Ouais, alors on est sur la côte de Nacre, hein, faut pas se tromper là. Hein.
Voilà, on est pas très loin de Caen, alors on est juste à côté de Ouistreham.
Ouais, donc, on est sur la droite, on a le Havre au fond. Véloroute littorale, Ouistreham. 2,5 km, Colville-Montgomery, plage, 400 mètres. Alors, la nature n'a eu de cesse de maximiser le rendement énergétique et de minimiser sa consommation. Ça, c'est la règle d'or de l'évolution dans la plupart des cas. L'homme, avec la malédiction d'une énergie abondante, il a quand même fait l'inverse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, seulement la moitié de ce CO2 rejeté dans les cieux est absorbé par les végétaux, la biodiversité et les océans. Et au-delà du nécessaire, le surplus réchauffe nos esprits et rendra petit à petit invivable la planète pour le sapiens. Bon, une fois de plus, l'homme est un animal génial, mais ne sait pas se limiter, sauf quand une soupe de pangolin ou d'autres choses lui tombe sur le museau. Mais, quand même, bonne nouvelle, il est encore possible de rendre habitable notre planète, des pistes réalistes sont là, nous disent quand même, et la nature et la science, qu'on peut limiter la casse et freiner ces courbes ascendantes qui chatouillent les nuages. Et bien, c'est ce que l'on retrouve dans cet ouvrage donc, signé Pierre Gilbert, jeune garçon, hein, vraiment, donc 26 ans, quelqu'un donc, qui a travaillé pour l'humilité ministère des Armées sur les liens entre changement climatique et sécurité. Et donc on va découvrir ce qu'est, donc avec Pierre Gilbert, avec ce livre aux éditions du Petit Matin, sur cette plage de Colville, ce qu'est donc ce fameux géomimétisme définition.
Géomimétisme est un cousin du biomimétisme, c'est le biomimétisme appliqué au climat. Alors géomimétisme, c'est une contraction entre géo-ingénierie, c'est-à-dire l'idée d'avoir un impact, de changer le climat grâce à la technique, à l'action de l'homme, et de biomimétisme, c'est l'idée de reproduire les procédés naturels. Donc le géomimétisme, in fine, c'est protéger, renforcer et reproduire ce qu'on appelle les puits naturels de carbone, dans une logique effectivement complètement intégrée à la biodiversité, au cycle naturel, quel qu'il soit d'ailleurs, le cycle de l'eau, le cycle des nutriments, de l'azote, du phosphore, et puis évidemment le cycle du carbone.
Alors, il s'agit bien sûr d'atténuer, autrement dit, d'envoyer le moins de gaz à effet de serre possible, mais aussi, et c'est ça votre ouvrage, c'est aussi donc de le capter, et de le capter de façon naturelle, parce que la géo-ingénierie, là-dessus, on a des tas d'idées, hein. Donc on a envie d'envoyer du soufre dans l'atmosphère, aussi d'aller ensemencer les océans.
Oui, ben, c'est le problème, c'est que de plus en plus, ça fait partie des controverses scientifiques qui sont en train de grossir, mais on a des gens qui nous proposent des solutions de captage du carbone, de captage technologique, c'est-à-dire qu'on va installer d'immenses aspirateurs à CO2 qui, à grand renfort d'énergie, vont filtrer l'air, et puis on va ensuite comprimer ce carbone, et puis on va l'envoyer dans des couches géologiques profondes, des couches d'ailleurs dont on ne maîtrise pas forcément la stabilité, mais ça c'est une autre question. Un tremblement de terre peut possiblement fissurer, et puis voilà... On remettrait tout le carbone dans l'atmosphère. Et donc on a ces gens qui, à grands coups d'articles scientifiques, qui au sein même du GIEC, au sein des COP, voilà, mais avance ces idées-là. Et le problème, c'est que, bon alors, ça n'a jamais été testé à grande échelle, on ne sait pas si ça marche, on n'en est vraiment qu'au stade des publications scientifiques. Mais voilà, et en fait, le problème, c'est que quand ces gens-là vont expliquer ça aux décideurs politiques, le décideur politique, il va se dire, ah, on a possiblement des solutions technologiques pour régler le changement climatique. Et donc, bon, bah, il n'y a peut-être pas tant d'urgence que ça, finalement, à arrêter de brûler du pétrole, arrêter de brûler du charbon, du gaz. Et c'est ça le risque avec la géoingénierie. C'est une technologie qui est balbutiante, qui est inexistante, mais le risque, c'est que bah, ça inhibe le sentiment d'urgence.
Mon CX-22 détruit en quelques instants toutes les fumées malsaines, poussière, brouillard, particules nocives, gaz d'échappement, bref, toute cette pollution que nous respirons dans les villes. Faisons une démonstration. Et voilà!
Le président demande où va toute cette fumée.
Dissoute, désintégrée, il y en a pas.
Alors vous mettez en avant, vous, dans cet ouvrage, les possibilités naturelles. Une fois de plus, faire avec la nature, ce qui a toujours été le credo de cette émission depuis de très nombreuses années. Alors bon, là, c'est peut-être pas les forêts qui vont dominer, on en a derrière, hein, chez vous, donc en Normandie, mais un des premiers puits de carbone, effectivement, ce sont les forêts. C'est, enfin, spontanément, on se dit, bah tiens, si je replante des arbres, eh ben, je vais capter du CO2.
Absolument, on pense spontanément à l'arbre quand on parle de capturer du carbone. Et alors c'est très vrai, c'est un des leviers essentiels qu'on a pour capturer du CO2 de manière naturelle, mais planter des arbres, ça suffit pas. Aujourd'hui, on plante essentiellement des monocultures d'arbres, on fait de la sylviculture à grande échelle. En France, hein, 80% des arbres qui sont plantés, c'est de la monoculture. Et ça, ce n'est pas durable, dans le sens où vous plantez une monoculture, vous appauvrissez vos sols, vous créez parfois de véritables déserts biologiques.
C'est le cas en Australie d'ailleurs aussi.
Absolument, ce sont les colons anglais qui ont planté massivement de l'eucalyptus et qui ont transformé le bush australien en ce qu'on connaît aujourd'hui et qui flambe régulièrement. Mais tout ça pour dire que voilà, planter des arbres, il y a plusieurs façons de le faire. Et la façon biomimétique, la façon voilà, que je développe dans ce bouquin, c'est bah, en fait on va reproduire des écosystèmes forestiers complexes où chaque essence d'arbre, chaque animal, chaque végétal est une composante d'une forêt en bonne santé et donc une forêt durable.
Il y a donc la reforestation, puis évidemment, essayer d'éviter de déforester. Et Dieu sait si c'est important, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? 10-20% des émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est?
Alors la déforestation au sens strict et aussi la dégradation des forêts, hein, c'est-à-dire des coupes localisées, bref, tout ça c'est 20% de nos émissions. Donc c'est colossal.
Aux portes de l'Amazonie, en plein cœur du parc naturel de la Macarena, une forêt luxuriante et ses hectares déforestés il y a quelques semaines. Un phénomène de plus en plus courant qui préoccupe Lisandro Lopez. Pour ce jeune guide, c'est aussi un manque de volonté politique.
Nous sommes dans le hameau de Los Alpes. C'est une zone que les paysans déforestent parce que la terre est fertile pour faire pousser des cultures comme le maïs, le manioc, la banane, le blé, le riz. C'est une des régions de Colombie qui a été la plus abandonnée par l'État colombien.
Donc effectivement, on pense spontanément à l'Amazonie qu'on coupe pour faire du bétail, pour faire du soja. La déforestation, elle est partout aujourd'hui, hein, même dans le Grand Nord, dans les zones tempérées. Donc effectivement, a fortiori dans les zones tropicales. Mais donc tout ça, effectivement, c'est 20% de nos émissions, c'est colossal. Et l'idée, c'est donc en priorité de sanctifier ces forêts-là.
Et puis il y a aussi donc, un autre moyen, c'est d'avoir des cuisinières propres, parce qu'il y a beaucoup de cuisinières évidemment à boire.
Oui, oui, bah, c'est-à-dire que quand on parle de climat, il ne faut jamais oublier qu'il y a des sociétés humaines et qu'il faut toujours immiscer les sociétés humaines dans les cycles naturels. Et effectivement, une des premières causes de déforestation, alors c'est surtout en Afrique, un peu en Indonésie, c'est l'usage du bois. C'est les coupes illégales de bois pour usage domestique, par exemple pour faire du charbon de bois pour faire de la cuisine, oui. Tout simplement. Plus un pays est pauvre, moins il dispose d'un État, plus les gens sont livrés à eux-mêmes et donc vont prélever dans la nature ce dont ils ont besoin, et c'est somme toute assez normal. Et donc l'idée, c'est de dire que pour protéger ces forêts-là, protéger du braconnage, il y a des politiques de co-développement à pousser, notamment le fait de changer les cuisinières. On va passer d'une cuisinière à foyer ouvert qui consomme énormément de charbon de bois ou même directement de bois, à des cuisinières, pourquoi pas électriques, alimentées par de l'électricité solaire ou même directement de la chaleur solaire, ou même beaucoup plus efficaces, hein, qui ont besoin de beaucoup moins de charbon de bois. Et donc ça, c'est quand même un gros levier climatique hein, qu'on sous-estime, mais c'est pas rien.
Quand on parle de l'océan, qu'est-ce qu'il absorbe ?
Bah, l'océan, c'est le climat. L'océan a absorbé 90% de l'énergie thermique supplémentaire due au changement climatique. C'est-à-dire que sans les océans, aujourd'hui, l'atmosphère, il serait pas à plus 1,1 degré, il serait à plus 9 degrés. C'est un tampon thermique. Hein. Et d'ailleurs, pour donner peut-être une petite idée, hein, les océans se réchauffent à un rythme de 5 bombes atomiques d'Hiroshima par seconde.
Oui, c'est bien comme comparaison.
Voilà, à cause du changement climatique anthropique. Donc voilà, et puis bon, cette absorption à la fois de chaleur, mais de CO2, parce que les océans absorbent à peu près peut-être 20% de nos émissions supplémentaires, bon, bah, ça a des conséquences. Conséquences en termes d'acidification. Nos océans sont en mauvaise santé. L'acidification, en gros, vous avez du CO2 qui est absorbé. Le CO2 au contact de l'eau crée de l'acide carbonique. Donc ensuite, il y a une partie de ce carbone qui se transforme en carbonate de calcium parce que voilà, on a des réactions chimiques, on a du vivant qui voilà. Mais on a aussi une partie de ce carbone qui acidifie purement et simplement les océans. Et ça, c'est très mauvais pour tout ce qui est zooplancton, tous les petits animaux, une coquille calcaire notamment, les coraux évidemment. Et le problème, c'est que cette biologie marine-là, elle est hyper importante pour le climat.
Un soleil radieux, une température de l'eau inhabituellement bonne, tout le littoral est baigné par des eaux plus chaudes que les normales de saison. Avec ces eaux chaudes, la Côte d'Azur s'est peuplée d'espèces qui d'habitude fréquentent les côtes africaines. Ces raies pastenagues, par exemple, pourvues de dards venimeux. Ou ces barracudas. Des poissons carnivores, ils évoluent à une vingtaine de mètres de profondeur et sont de plus en plus présents, d'après ces plongeurs.
Ce qui est plus alarmant, ce ne sont pas forcément les 32 en surface, mais les 27 à 20 mètres de profondeur. Profondeur à laquelle on est censé avoir 18-19 maximum, même en plein mois d'août.
Si on rajoutait des animaux, ce serait bon ça pour tout le monde ?
Les océans ont deux façons d'absorber du carbone. La première, je viens de vous le dire, c'est ce qu'on appelle la pompe chimico-physique. Le carbone, voilà, il est transformé en acide, il est transformé en carbonate par réaction chimique. Mais on a aussi la biologie marine. Et tout simplement, ça démarre avec le phytoplancton. Le phytoplancton, c'est comme les plantes. Avec la photosynthèse, les petites algues vont capter du CO2 et faire de la matière organique. La moitié de toute la matière organique produite sur Terre chaque année, c'est du phytoplancton. Ensuite, ça va être mangé par du zooplancton, par des petits poissons et puis toute la chaîne alimentaire. Et donc, tout ça stocke du carbone déjà dans son corps. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'une partie de cette matière organique produite par les océans, elle va finir par tomber sur le plancher océanique. Donc, grosso modo, les océans produisent chaque année peut-être 50 gigatonnes de carbone de matière organique. En gros, produisent 5 fois ce que l'humanité émet en carbone. Et puis, on a un cinquième de cette masse totale, à peu près. Hein, c'est difficile à estimer, mais en gros, donc l'équivalent de ce que l'humanité émet en carbone, qui redescend sur le plancher océanique.
Eh ben écoutez, elle est pas mal hein, cette réflexion de ce jeune de 26 ans, donc Pierre Gilbert. Et puis, on a appris aussi que même le barracuda est devenu aussi un thermomètre du réchauffement climatique. Ah ben oui, c'est comme ça. Tiens, ça va nous faire du bien. Un peu de musique sur France Inter et on y retourne.
The day I walk down the street I used to wander, yeah, I shook my hand and made myself a bet. But it was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? My shoes and a hum from the rearview mirror, bronzed admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky
Très agréable ça, c'était Aulaki, c'était Kurt Weill, V-I-L-E, hein, non pas Kurt Weill, l'homme de l'opéra de Katsu.
Ça y est, j'ai choisi la date. Ce sera le 12.
CO2, mon amour.
Nous serons au sommet de notre perception cosmique et sensorielle.
Ah oui, non, bah ça doit être formidable, oui, mais j'ai peur que ce soit un petit peu juste, 12 par contre.
Maître Dong avait tout calculé. Troisième cycle de l'année du chien. Et si on ne se marie pas le 12, ça nous rapporte en plein dans l'année du porc. On va tout de même pas se marier l'année du porc.
Avec Denis Chessou.
Ah bah oui, c'est comme ça, il faut toujours réfléchir à tous les petits détails. Alors, nous retournons avec Pierre Gilbert, son ouvrage aux éditions des Petits Matins, donc géomimétisme, donc nouveau mot hein, dans notre vocabulaire, on va dire, environnemental. Il y a de très nombreux lieux qui captent le carbone, on le sait, hein, donc vous avez les sols sur des prairies qui sont bien menées, vous avez les tourbières, les zones humides, donc très très efficaces. Donc nous sommes toujours face à la mer, plage du débarquement, dans le Calvados. Et alors évidemment, quand on parle des conséquences de la surpêche, on peut se poser des questions parce qu'on a fêté donc la naissance il n'y a pas longtemps à Concarneau d'un bateau-usine qui peut vous avaler 150 tonnes de poissons par jour, qui va soutenir d'ailleurs la pêche néerlandaise. Et donc là aussi, il y a matière à réflexion. Pierre Gilbert.
Plus il y a de poissons dans les océans, plus il y a de vie marine, et bien plus le cycle biologique du carbone océanique est accéléré. Puisqu'on a alors le plancton, il va se faire manger plus vite, donc il va avoir plus d'espace pour se reproduire aussi et donc absorber du CO2. Donc plus on a de poissons dans les océans, plus déjà en fait les poissons stockent dans leur corps du carbone, mais plus on a de cadavres
dans le plancher
qui finit par tomber sur le plancher océanique.
Voilà.
Et ça c'est très intéressant d'un point de vue climatique parce que quand de la matière organique tombe en profondeur, en dessous de 400 mètres et sous des conditions de pression particulières, eh bien il y a des petites bactéries qui vont transformer tout ça en méthane, mais le méthane il va pas pouvoir repartir dans l'atmosphère, il va cristalliser sous la pression et donc il va former des glaces de méthane, des hydrates de méthane, et ça c'est une forme stable du carbone, c'est-à-dire qu'il va rester comme ça pendant des milliers d'années.
Ouais.
Mais bon, l'idée globale c'est de dire que plus on a de vie marine, plus on a de biodiversité, eh bien plus on a de cadavres qui tombent sur le plancher océanique et qui se transforment en forme stable du carbone.
Bouge pas mon lapin, poisson il arrive, tu sais.
À mon avis, c'est pas un gros ça. Un rouget grondin peut-être. Ou alors une dorade. Oh la vache. Attends, bouge pas. Ah, je. La carne là, je bataille. Regarde-moi ça. Mais non, c'est minuscule celui-là. Regarde-moi ça. Ah, mais ça, c'est un nain ça. Tu penses, j'ai rarement vu plus petit, hein. S'il faut aller au large pour attraper des merdes pareilles.
Et puis alors là, on l'a pas, mais le fameux permafrost ou pergélisol, c'est-à-dire en fait toute cette partie qui est gelée, et c'est aussi un capteur extrêmement important de gaz à effet de serre.
Effectivement, les plaines sibériennes captent du carbone, mais c'est surtout qu'il ne faut pas que ce carbone reparte dans l'atmosphère.
Voilà.
Le géomimétisme, c'est aussi empêcher que le carbone retourne dans l'atmosphère, donc c'est protéger le permafrost. Le permafrost, c'est quoi? C'est cette terre qui est gelée depuis la dernière ère glaciaire et qui contient beaucoup de matière organique. Et si, le problème, c'est qu'avec la montée des températures, eh bien, on a tout un tas de petites bactéries qui vont se réveiller dans le sol et puis qui vont manger cette matière organique et les transformer soit en méthane parce que c'est un milieu humide, soit en CO2 directement parce que c'est un milieu sec.
Alors que peut-on faire pour travailler, on va dire, correctement ces sols, quoi? Il faut remettre des animaux, c'est quoi?
Donc, le permafrost fond avec à peu près 70 ans d'avance sur ce qu'avaient prévu les scientifiques, ne serait-ce que 5 ans,
ouais.
Donc c'est plutôt problématique. Hein. Si 30% du permafrost fond d'ici 2100, ce qui est à peu près prévu...
Là, ça relâche ce qu'on appelle du CHK, donc c'est-à-dire du méthane. Hein.
Voilà, c'est l'équivalent de 10 ans d'émissions de l'humanité actuelle qui est remis en plus dans l'atmosphère, donc c'est un cercle vicieux, c'est une boucle
cool.
De rétroaction positive. Mais... a priori, il y aurait quand même moyen de réduire ce rythme de fonte. Alors comment faire? Bon, encore une fois, ce ne sont que des expériences à échelle réduite pour l'instant, mais c'est utiliser les animaux. Et dans les plaines sibériennes, historiquement, on a beaucoup de rennes, avant on avait des mammouths, on a aussi des bisons, des bœufs musqués, on a toute une mégafaune qui, en fait, l'hiver, gratte la neige pour trouver de quoi manger, du lichen, des herbes, voilà. Je suis un renne, je gratte, et donc je permets au sol de se refroidir de 3 degrés supplémentaires sur 1,50 m. Et donc ça me permet, moi, le sol, de tenir beaucoup plus au printemps, en été, sans relarguer du CO2.
Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ces animaux-là?
Non, mais je dis juste que là, pour l'instant, on importe énormément de viande d'Amérique latine qui cause de la déforestation, mais peut-être qu'on pourrait arrêter ça et d'ici quelques années, hein, le temps de former des grands troupeaux de rennes, de bisons, de tout ce qu'on veut, mais...
Bouffer du renne.
Bouffer du renne, un peu plus de rennes et beaucoup moins de vaches, quoi.
Oui, c'est toujours un peu les vases communicants, ces affaires-là, parce que si nos amis éleveurs vous leur disent « Ah, ouais, il y aura du renne à la place de nos salaires », ils ne vont pas du tout aimer.
Non, enfin, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
Non,
il faut sortir de l'élevage industriel, ce n'est pas négociable. Il faudrait qu'on divise par trois nos cheptels pour faire de l'élevage extensif. Il ne s'agit pas du tout de mettre fin à l'élevage, mais de réintégrer l'élevage dans les cycles agricoles. Il faut même remettre les animaux dans les champs. Quand on parle de transition écologique, il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Les filières, ça se restructure. Si on plante des algues, du kelp par exemple, sur 1 million de kilomètres carrés, on absorberait 10% des émissions de l'humanité chaque année. Pourquoi ? Parce que en fait, les algues, elles absorbent du carbone 5 fois plus vite que les plantes sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas contraintes par les mêmes lois physiques. Elles peuvent pousser en 3D et de manière rapide.
Et en plus, elles nous balancent de l'oxygène.
Elles désacidifient les océans parce qu'elles captent du carbone autour d'elles pour faire de la biomasse. Et donc, c'est de l'acide carbonique en moins. Elles font baisser un peu les températures à la surface de l'océan. Et donc elles affaiblissent les ouragans qui passeraient au-dessus de ces zones-là.
Oui, c'est tout bénef, quoi.
C'est encore plus bénef que ça. C'est-à-dire que ces algues-là, elles attirent une faune de petits poissons herbivores qui elles-mêmes attirent des poissons carnivores. Et c'est très intéressant pour la pêche artisanale qui peut déployer ses lignes à côté et qui peut... En gros, on peut faire de l'élevage extensif de poissons grâce à des fermes d'algues. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on a tout un tas de procédés industriels maintenant pour en faire du biocarburant, par exemple. On ne va pas faire du biocarburant à grande échelle avec des plantes terrestres parce qu'on a besoin de nos sols agricoles pour nourrir l'humanité.
Besoin de protéines.
Besoin de protéines et besoin de capter du carbone sur nos sols. Mais par contre, faire du biocarburant avec des algues, c'est intéressant. En matière sèche, l'algue, elle contient 50% d'huile. C'est plus que les plantes terrestres. Donc on peut en faire du carburant et on peut redynamiser l'activité économique de zones littorales entières. Et puis là, on est dans la plaine de Caen, qui est une zone qui a souffert de la désindustrialisation, comme malheureusement beaucoup de zones littorales en France. Ça peut être des pistes de relance de l'activité.
Cette petite équipe de biologistes travaille depuis quelques années sur le biocarburant de demain, réalisé à partir de microalgues.
Toutes les choses vivantes, les organismes, c'est constitué de lipides, de protéines, de sucre, comme vous, comme moi, comme ça, c'est vivant. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer la partie qui peut être transformée en carburant, c'est les lipides. Ces lipides-là, on va ensuite les modifier légèrement pour pouvoir les rendre utilisables par un moteur de véhicule.
Pour produire en grande quantité, un processus innovant a été mis en place. Le végétal nourri par la sève d'arbre est intégré dans un réacteur tubulaire.
Les algues à l'intérieur sont agitées, elles sont éclairées, elles ont des nutriments, donc comme pour tous les végétaux, azote, etc., pour pouvoir se multiplier à grande échelle. Et donc faire ça avec le meilleur rendement possible, c'est-à-dire qu'elles poussent jusqu'à se multiplier énormément. Après, on les récolte et on fait les transformations derrière pour avoir du carburant.
Pierre Gilbert, le monde de demain, comment le voyez-vous ?
Je rêve d'un monde dans lequel les gens se sentent en sécurité et soient capables de se projeter. Évidemment, ensemble. C'est-à-dire que quand on ne se sent pas en sécurité, on a tendance à se renfermer sur soi-même. Et là, la crise économique qu'on traverse, c'est totalement ça. Les gens ont peur de perdre leur emploi. Les pouvoirs publics ne font rien pour relancer à hauteur de la crise. Donc, il y a une insuffisance.
C'est pas qu'ils ne font pas rien, quand même.
Ils ne font pas assez. Mais du coup, on a... une tentation du retour sur soi, de ce que certains appellent tentation du retour intra-utérin. Et tous les historiens, dont Jared Diamond, l'auteur d'Effondrement, ont bien démontré que les sociétés qui sont capables d'absorber des chocs exogènes, du changement climatique, sont les sociétés les plus solidaires. Plus une société inégalitaire, moins elle voit venir, parce que les élites sont complètement déconnectées, n'anticipent pas, donc elles ne voient pas venir le problème et donc elles ne prennent pas les décisions à temps.
On retourne face à cette mer là. Là on est bien sur la petite digue.
Devant nous il y a des nuages. Mais on se rend compte que derrière les nuages, en fait, l'horizon est dégagé. Voilà, c'est à nous maintenant de pousser les nuages et de dégager l'horizon.
«
Ce qui est pas mal dans la bouche donc d'un garçon de 26 ans, donc je rappelle son titre, donc Pierre Gilbert, Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature, préfacé par Gaël Giraud, hein, qui nous dit que cet ouvrage donc fournit la démonstration qu'il est encore possible aujourd'hui de sauver notre monde, mais évidemment faut renouer avec le multilatéralisme et puis l'état stratège donc de l'autre qui peuvent publier, enfin produire des cadres juridiques. Sinon ça va être quand même extrêmement compliqué. Merci à Michel Bézikian, à Xavier Pessugia qui a réalisé lui ce reportage, qui l'a colorisé et qui on souhaite un excellent rétablissement, à Fred Milano qui a donc réalisé le direct, à Thierry Dupin, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, je vous emmènerai dans le pays de Sarrebourg. Et alors là, on va découvrir des chouettes. Ça va être de la nature, des gens très positifs. Le collectif Préservons la biodiversité, la chouette chevêche sera à l'honneur. Les podcasts, abonnez-vous, CO2 Mon Amour d'un côté, La Tulu Mon Petit Loup de l'autre, le Twitter, Denis Chessou tout attaché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end.